Bienvenue au podcast Pivot, épisode numéro 25. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ambitieux ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'Open Mind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée technologique afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Éric Bédard, qui est une sommité en agilité au Québec, et je me dirais même au Canada. Nous allons parler du sujet des avantages de l'agilité pour les clients et les utilisateurs. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié à chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Éric Bédard, merci beaucoup d'être encore avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu?
Très bien, très bien. Merci pour l'invitation à nouveau.
C'est un plaisir. Donc, je dis merci d'être encore avec nous parce que Éric a eu l'amabilité de faire un autre enregistrement avec nous. L'épisode numéro 22 où on a traité de qu'est-ce que l'agilité. Donc, Éric est consultant technologie et innovation. Avec nous, entre autres, chez OpenMind depuis plus de 4 ans et également pour d'autres entreprises. On a expliqué un peu plus son parcours dans l'épisode 22. On vous invite à l'écouter et on traite également, comme je disais dans cet épisode-là, sur qu'est-ce que l'agilité. Aujourd'hui, on s'entretient sur le sujet encore de l'agilité. Par contre, on va aborder beaucoup plus l'angle de quels sont les avantages de l'agilité. Et Éric, il y a quand même beaucoup d'avantages, mais ça se décline en différents, je dirais, personas dans le fond. Là. Il y aurait comme 3 parties prenantes des avantages potentiels de l'agilité. Je serais curieux, Éric, qu'on débute avec ça et d'expliquer un peu ces trois parties prenantes-là.
Exact. Je pense que ça peut être le fun de regarder ça dans différents temps. Donc, évidemment, le premier angle, c'est d'un point de vue client. En tant que client, je choisis de choisir un partenaire pour mon développement logiciel. C'est quoi les avantages pour moi en tant que client? Donc, je suggère qu'on commence avec ça. Ensuite, on peut regarder du côté de l'organisation qui, elle, choisit l'agilité comme approche, comme mindset, comme valeur, comme principe. Puis on pourrait terminer aussi avec les gens très importants, les acteurs, les gens des équipes, les gens qui adoptent l'agilité dans leur quotidien. Pour eux, être dans une organisation agile, c'est quoi les avantages pour eux?
Et je fais une parenthèse, Éric, pour les termes qu'on utilise, puis corrige-moi si je me trompe, mais de définir le côté client, le côté organisation et individu, on parle vraiment dans le cadre d'une entreprise de service, un peu comme OpenMind, qui offre une prestation à un client au bout de la ligne. Dans le cadre du développement d'un produit technologique où le client, en réalité, n'est pas la personne qui reçoit le service, est-ce qu'on garde les mêmes termes ou on changerait un petit peu la terminologie, tout ça, pour un développement de produit, là?
Je pense qu'on peut appliquer ça exactement à tous, dans le sens où, que ce soit un client direct ou indirect, on a toujours des clients. Chaque équipe qui développe un produit ou un service, c'est face à ses clients. Donc, quand je dis client, c'est les gens, les parties prenantes directement associées à l'équipe avec qui on travaille. Donc, je pense que ça s'applique dans les deux sphères, dans les deux cas.
Donc, le client pourrait être l'utilisateur du système au final également. Ça pourrait être ça.
Tout à fait.
Je pourrais être sûr qu'on s'entende bien.
Oui.
Fantastique. Donc, débutons avec cette catégorie-là, le client, l'utilisateur final. Parle-nous un petit peu des avantages de fonctionner en mode agile versus un mode waterfall. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi waterfall, je vous réfère à l'épisode 22. Qu'on en discute justement de la différence entre agilité et waterfall. Éric, on t'écoute.
C'est parti. Donc, si je suis le client, tiens, on va faire un persona. Jonathan, c'est toi le client, moi je suis le fournisseur. Je te donne 2 options. La qualité de ce que je vais te livrer, je te donne 2 options, je la teste à la fin complètement. Au bout des 8 mois, là, j'embarque ma gang de QA puis on teste. Ou je te donne l'option de tester en itération tout le long du projet au fur et à mesure. Quelle option je choisis?
Je vais t'en poser une bonne colle, Éric. Je vais te revirer ça par une question. Est-ce que je dois m'impliquer dans les tests ou pas en tant que client?
Non, les tests, ça c'est une excellente question. Les tests, pour moi, quand on fait un livrable, quand je livre quelque chose, je suis responsable des tests. Donc, dans n'importe quel autre domaine qu'on pense, si tu achètes une voiture, si tu achètes un téléphone, si tu achètes une calculatrice, les tests, pour moi, c'est la responsabilité de l'équipe. Par contre, si on fait un produit unique, en tant que consommateur, je souhaite qu'on travaille ensemble pour le définir ensemble, ce produit-là. Donc, c'est un sujet, on pourrait faire un podcast juste sur ce sujet-là d'un point de vue client. Est-ce que j'ai la responsabilité de tester ou au contraire, je suis plus en mode expérimentation, donner de la rétroaction, gérer la gestion du changement, le Big Bang là qui arrive à la fin, puis bang, on livre tout ça en étant agile. On se donne beaucoup plus d'options de gérer le changement, apprivoiser, expérimenter, donner la rétro. Donc, pour répondre à ta question, les tests, j'assume que c'est nous qui devons le faire, nous étant le fournisseur. Puis le client, eux, ma proposition, c'est de pas amener le client à tester, mais par contre, va être très impliqué. On va en parler encore davantage tantôt. Le client va être impliqué dans le processus.
À ce moment-là, je réponds à ta question que je préfère que vous le testez en cours de développement. Exact. Absolument.
Tout à fait. Puis là, je vais lever mon chapeau à des anciens collègues quand je travaillais en Waterfall. Tu sais, le spécialiste QA ou les gens vraiment qui développent une expertise à ce niveau-là, à l'époque, il y avait au bout de 8 mois dans le projet. Hein, on partait un projet, les architectes, les analystes, la programmation, pauvre, là. Ça, c'était pas facile. Il y avait au bout de la chaîne. Puis, au bout de la chaîne, on leur mettait des livrables dans les mains, puis les gens de QA testaient ce qu'on avait mis dans des specs il y a 6 mois avant. J'ai vu des gens de QA, leur carrière changer complètement en travaillant en agilité avec une équipe, être intégrés dans l'équipe de développement. La game change complètement pour eux. Ça amène une autre dimension. Nos gens de QA, c'est souvent les gens les plus sensibles par rapport à l'utilisateur. Les impliquer en amont, dès le départ, travailler avec nous, l'amener dans un meeting de design. Je demande pas aux gens de QA de devenir des designers, mais d'être là, d'écouter la solution, de lever la main, de poser une question, de se mettre dans la peau de l'utilisateur final. 50% de leur travail va être fait en amont. Les développeurs, les designers, les analystes vont ajuster leur solution en fonction des bonnes questions qu'ils vont poser. Tu sais, les gens, la qualité, c'est pas un concours de... On rentre le plus de bugs possible. C'est idéalement, on veut pas que le bug sorte. Donc, pour y arriver, il faut travailler ensemble, on travaille en amont. Donc, moi, si je suis un client, je travaille avec un partenaire agile, ça me rassure beaucoup de savoir que la qualité, le contrôle qualité va faire partie du processus du début jusqu'à la fin. Je pense que c'est un grand avantage. Ça amène une autre dimension, un autre type de qualité à nos livrables. Ceci dit, c'est pas magique. En passant, je pense que je l'ai peut-être dit, ça prend du bon monde, ça prend du monde engagé, tout ça, mais si on a le bon monde, on a la bonne approche, tester en amont, je pense qu'en tant que client, ça me rassure de savoir que la gang sont là dès le début.
Mais Eric, ça m'amène à une question, là. Je me mets dans les sujets du client. Tu mentionnes qu'il serait préférable d'avoir les gens d'assurance qualité en début de mandat, puis d'être là dans les rencontres. Moi, je me mets dans les sujets du client, puis je me pose la question, OK, mais là, qui va payer pour ça? Là? C'est-tu moi qui va payer pour que cette personne-là soit là? Puis, il me semble que je vais payer pour plus que qu'est-ce que ça devrait être. Probablement que tu as une réponse à ça, Eric.
Ah oui, certain. Mais dans tous les cas, qu'on le fasse en waterfall, là, les gens de QA vont être impliqués. La question de payer, soit qu'on paye les gens pour qu'ils travaillent à la fin du projet ou on les paye tout le long du projet. Donc, c'est sûr que l'architecte en fin de projet Waterfall, il est moins impliqué qu'à la fin qu'au début. Donc, c'est la même quantité de temps, c'est la même quantité de personnes, c'est la même chose. C'est juste que c'est réparti égal dans le temps. Donc, c'est le même, ça coûte pas plus cher. Hein. Au contraire, je pense qu'on aura des bénéfices si on découvre les bugs en amont qu'on les découvre à la fin. Donc, je pense que ça va coûter moins cher. Mais en termes de ressources, c'est la même quantité, c'est le même nombre d'heures, c'est le même nombre de personnes.
Donc, avec l'expérience que toi, tu as vue de mettre les gens plus en avant-plan au départ dans les discussions du projet au niveau de l'assurance qualité, ça revient même au bout de la ligne, mais la qualité doit être plus grande au final, c'est bien ça?
Tout à fait, exact.
Fantastique, fantastique.
Parce que conclusion, tu sais, rapidement, la personne de QA à l'époque, elle regardait les specs puis elle disait ce que tu as codé, ça correspond aux specs. Mais les spécifications, ça se peut que le bug, en fait, les bugs les plus coûteux, c'est quand c'est des bugs de conception, des bugs de design. Donc, d'avoir les gens de QA impliqués en amont, on peut trouver ces bugs-là. Tandis qu'à l'époque, à la fin, je pouvais juste te dire si ça correspondait pas à ce que c'était supposé être. Mais j'avais pas un impact, j'avais pas une influence sur la solution finale.
C'est tellement bien dit, effectivement. C'est que les bugs les plus coûteux, c'est ceux de structure. Exact. C'est souvent des décisions qui ont été prises en début de projet. Et c'est là que les gens d'assurance qualité, les gens de QA peuvent venir donner une grande plus-value probablement à ces étapes-là, ou du moins en plus de mieux comprendre le projet pour savoir où bien tester ou quoi focusser en termes de tests. On revient sur les avantages. On parlait du côté client, côté usager. Donc, quels sont j'ai coupé un petit peu ton flow, Eric, bon, mais on parlait qu'il faut faire les tests tout le long pendant le projet. Exactement. Et là, on était sur ce flow-là, là, d'aller vers les avantages du côté client usage.
C'est ça. J'en ai 5 avantages pour le client. J'en ai choisi 5. J'aurais pu en choisir 10, 2. Tout ça, c'est un peu subjectif, mais j'ai essayé de sortir les 5 qui me viennent à l'esprit le plus rapidement. Le deuxième avantage pour un client de faire affaire avec une agence, une compagnie agile, c'est la collaboration. C'est une autre dimension. La collaboration en travaillant avec une organisation agile est complètement différente. Puis on vise dans le développement logiciel, on vise une relation durable avec nos clients. Donc si on a pour l'agilité, on augmente nos chances que ça se passe. Ainsi, quand j'ai fait beaucoup de projets Waterfall, les clients, la collaboration, on collaborait évidemment avec eux, mais c'était beaucoup en amont du projet au début, puis à la fin. À l'époque, c'était vraiment intense. Au début, j'étais en Europe, voyagé, on s'en va chez le client, on passe plusieurs semaines avec eux. Puis là, il y a une grande mobilisation qui se fait du côté client pour amener les gens. Parce que là, c'est là que ça se passe. On fait toutes les spécifications pour les 9 prochains mois. Donc, c'est du temps plein. La compagnie est obligée de mobiliser les gens, arrêter l'usine. Puis on travaille beaucoup ensemble au début. Puis après ça, on repartait, on venait à Montréal, puis on travaillait. Faisait notre développement pendant, on se parlait un petit peu, on a des touch points, mais essentiellement, c'était la phase d'exécution. Puis là, le client était beaucoup moins requis. Puis à la fin du projet, on recommençait la même chose. On déployait, on formait les gens, la grosse batterie de tests, puis on est tout ensemble. Donc, la collaboration dans les projets Waterfall était beaucoup au début puis à la fin. En agile, un peu comme ta question tantôt avec le gars de QA, la collaboration va être complètement différente parce que on va tout le temps collaborer au même niveau, autant au début dans le milieu qu'à la fin. On y va en itération, donc c'est tout le temps le même rythme. Puis évidemment, si on arrête de se parler pendant 8-9 mois, c'est pas la même relation que si on se parle à chaque 2 semaines avec nos procédures, nos processus, nos discussions, nos touch points. Ça amène un lien très, très fort entre le... Donc moi, en tant que client, je veux être impliqué avec ma gang. On fait un produit, exemple sur mesure, je suis pas à l'aise de dire OK, on fait des spécifications, puis je laisse ça à la compagnie, puis là, revenez-moi dans un mois avec un coup de baguette magique, puis tout fonctionne comme prévu. La relation client puis la compagnie est complètement différente, puis ça développe des liens très forts, puis on apprend à se connaître, on apprend à se faire confiance, on apprend à se dire les vraies affaires, puis on se donne une chance d'arriver à notre destinée. Ceci dit, puis si je me mets dans la peau du client aussi, c'était pas facile avant de mobiliser tout le monde. La business continue. Oui, j'ai un projet. Oui, c'est important. Oui, je veux numériser telle chose, mais ma business continue d'opérer. Donc, si on fait ça bien, si on prend le temps, si en amont, on définit c'est quand qu'on se parle, à quelle fréquence, on met ça dans nos agendas, je crois qu'en tant que client, mes observations font ça, c'est plus facile à organiser. Donc, c'est le même temps au total, mais au lieu d'avoir un gros blitz au début à la fin, on ventile ça à travers la durée du projet. Donc, beaucoup plus facile à gérer.
Très intéressant. Prochain avantage que tu vois de ton côté, Eric?
Oui. Peut-être juste une tranche de vie là, sur l'impact de ce que je viens de raconter sur la collaboration. Je me rappelle un moment, si ça arrive, il y a un joueur de l'équipe qui donne sa démission, qui quitte, belle réflexion de sa part, une dizaine d'années dans l'entreprise, décide d'attaquer, changer de direction, aller chercher... des nouveaux défis. Le directeur de compte vient me voir. Là. Gros stress. Là. Cette personne-là, c'est une personne clé de l'équipe. On travaille avec notre client, bien connu. Il y a un stress, ça met ça en péril notre relation avec le client, notre projet, etc. À notre grande surprise, quand on l'annonçait au client, ça s'est très bien passé. Puis ça, les travaux en silo, à l'époque, tu sais, dans Waterfall, l'architecte qui quitte, là, c'est pas évident. Là. Tout vient d'une personne. Là, l'équipe, on travaille avec le client. La collaboration, comme je disais, est différente. On fait des revues, on fait des pré-plannings ensemble. On est ensemble. L'équipe, le client connaît les membres de mon équipe par leur prénom. On est une gang ensemble. On travaille ensemble quotidiennement. Donc, sa première réaction, c'est tout l'inverse. Lui aussi, dans son entreprise, il y a un roulement, il y a des gens qui quittent. Mais il connaît pas juste Pierre, il connaît Pierre-Jean-Jacques. Donc, ça crée une dynamique incroyable. Ça nous permet aussi de vivre. Fait que la tranche de vie, c'est ça. Ça amène, tu sais, c'est comment on mesure l'impact. Mais c'est fantastique. Ça l'aide beaucoup. Puis on le sait, parfois on contrôle pas tout. Puis ça peut arriver qu'il y ait des gens qui quittent. Donc, c'est important en tant que client. Je souhaite avec une entreprise, une équipe agile, une équipe qui a pas de silo, une équipe où tu sais, je paye pas, j'engage pas juste une personne, j'engage une équipe, j'engage une compagnie. Donc ça crée, ça met un niveau de confiance important pour développer des relations durables. Donc c'est ma petite tranche de vie, Jonathan, par rapport à
bel exemple. On aime toujours ça quand c'est imagé. Prochain avantage que tu vois. Ouais. Oui, exactement. Troisième avantage, Eric.
Celle-là aussi, ça pourrait être un podcast sur trois épisodes. Puis je me lance. C'est un sujet plus sensible. Parce qu'il y a beaucoup de mythes à travers ça. Il y a beaucoup. C'est pas tout le monde qu'on réussit à mettre ça en place, mais c'est le concept du budget puis de l'échéancier. En tant que client, je souhaite avec un partenaire où ce que mon budget puis l'échéancier va être fixe. Ça me tente pas là d'aller cogner à ma porte puis aller rechercher un autre 100 000 puis aller rechercher un autre 100 000 puis faire ça quatre fois. Est-ce qu'on peut s'entendre de faire un projet qui dure 12 mois et qui me coûte tant? En tant que client, c'est ça que je souhaite. Donc, en agilité, puis là, c'est ça, je dis, c'est un sujet délicat parce que c'est pas facile à mettre en place pour respecter ça, mais c'est une notion de base. Quand on fait un projet agile, c'est le périmètre du projet, c'est le scope, c'est la profondeur des éléments qui va changer, qui est malléable. C'est un grand, ça, c'est une révolution. Là. On parle, tu sais, moi j'ai appris à faire ça un peu comme en ingénierie. En ingénierie, le périmètre ne change pas. Si on fait une bâtisse de 70 étages, elle a 70 étages. Une fois que j'ai fait la fondation pour le supporter, 70 étages, j'ai commencé à construire, je ne pourrais pas en mettre 140. Ça, c'est impossible. On a appris à faire du logiciel de la même façon. Ça vient de l'ingénierie. Tu sais, des cabanes, on en construit depuis des milliers d'années. Mais du logiciel, c'est un peu plus récent. Puis c'est normal, on s'est inspiré de ce qu'on connaissait pour mettre des pratiques en place. Il y a c'est tellement virtuel, c'est tellement malléable, c'est du mou. Le code, on peut lever, nous, on peut lever la structure et rajouter en dessous. Donc, il y a beaucoup d'options qui s'offrent à nous de travailler différemment. Puis ça, c'est un paradigme important. C'est possible. On fait un produit sur mesure, on s'assoit avec le client. Il faut trouver une façon que le budget puis le temps soit fixe. Puis en travaillant en collaboration avec le client à chaque itération, on se parle, on se fait confiance, on travaille ensemble, puis on s'assure qu'à chaque minute qu'on met sur le projet, ce qu'on met le plus de valeur possible. Donc, on fait un contrat avec le client, on définit les à haut niveau ce qu'on veut faire, on s'engage à livrer tous ces éléments-là, mais pour chacun des détails de chacun des éléments, on va travailler avec le client pour y en donner le maximum à chaque fois. Mais ça va changer le périmètre. Faut s'assurer que le périmètre, ça soit celui qui est nécessaire, qui va en livrer le plus pour le budget et le temps. Donc, mais ça, c'est très sensible, c'est pas facile, c'est rare que je vois on y arrive pas toujours. Et là, on va piger, puis on a des concepts de contingence, puis on rajoute du temps. Mais moi, le client, ça me fatigue un peu. J'aimerais ça qu'on s'entende, puis qu'on livre dans le temps, puis dans le budget. Donc, si on réussit à y arriver, en tant que client, c'est un grand avantage.
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, D-E-V le chiffre 2, CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Et le fameux point de si on réussit à y arriver, ça pourrait faire l'épisode, ça pourrait faire le sujet d'un autre podcast. Donc, si je résume jusqu'à présent, avantage 1, on est capable de faire des tests en cours de route, ce qui généralement augmente la qualité au bout de la ligne du système. J'y vais à très haut niveau, là. Ouais. Avantage 2, meilleure communication, meilleure fluidité. On s'engage pour le long terme. On augmente nos chances de succès à ce moment-là dans le projet et une meilleure continuité si jamais il y a des membres de l'équipe qui partent en cours de route. Et le troisième avantage que tu viens de mentionner, Eric, c'est de réussir à figer l'aspect budget et l'aspect échéancier pour éviter devoir aller chercher un 100 000, un 200 000, un 300 000 de plus. Cependant, ça vient avec l'ouverture non optionnelle de changer ce qu'on appelle le scope, donc la portée du projet ou à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va livrer au bout de la ligne. Mais le but, c'est de prioriser les choses qui ont le plus de valeur au départ.
Tout à fait. Mais tu sais, on dit changer le périmètre. Dans le fond, c'est on le travaille ensemble. C'est pas comme si j'achète un Honda Civic, le résultat final, c'est l'Honda Civic. Il y en a 100 sur le plancher. C'est ça. En TI, le périmètre, on doit s'asseoir ensemble puis le définir au fur et à mesure. Donc, on va le raffiner ensemble. On va définir le périmètre tout au long du projet. Donc, mais ce que tu as dit, on le ressent. C'est justement, faut pas tomber dans le piège où ce que le client pense qu'on change le périmètre. Parce que le périmètre, il n'est pas écrit, c'est marqué une ligne. Ça va prendre un module de commande. Module de commande, on va s'asseoir avec vous autres. On va se connecter à votre ERP. On va regarder le data. On va regarder le détail. Le client ne sait pas plus. C'est ça le travail de collaboration qu'on fait ensemble pour le découvrir ensemble, pour en faire le plus possible dans les temps, dans le budget qu'on a.
Et dans le développement d'un produit technologique ou d'un logiciel, on s'entend, Eric, qu'il y a c'est beaucoup un processus de découverte en cours de route. Là, on peut pas écrire chaque virgule près puis tous les paramètres au départ. Des fois, le client pense qu'il a besoin de X, mais l'utilisateur final, en réalité, c'est Y. L'agilité vient permettre de donner une voix un petit peu à l'utilisateur final, beaucoup plus que si c'était en mode waterfall.
Puis merci de le rappeler. Ça sert quand il y a de l'incertitude. Puis c'est pas tout écrit d'avance. Puis c'est là que l'agilité vient intéressant. Les projets où c'est plus walk, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est une recette qu'on applique, on en a parlé dans la première, l'agilité est moins, elle aura un moins grand impact.
Effectivement.
Good.
Quatrième avantage, Eric.
Oui, livrer tôt et régulièrement des fonctionnalités qui vont pouvoir jouer avec. Hein, c'est beau, les documents techniques, les wireframes, les maquettes, ça peut, mais c'est en bout de ligne, si le projet arrête après avoir fait les maquettes, il n'y a pas grand personne qui va avoir de la valeur là, avec tout ça. On fait des beaux dessins. Je dis pas que les dessins sont pas requis, nous aident beaucoup. Là. Les maquettes, j'aime ça en faire à toutes les itérations. Mais si je choisis un partenaire agile, un avantage que j'ai, c'est que très rapidement, dans le processus, on va trouver une façon de livrer des éléments fonctionnels. Je vais pouvoir cliquer dessus. Puis si on a une bonne stratégie, puis si on a pris le temps de se parler puis se comprendre, on va livrer les trucs qui sont les plus fatigants aujourd'hui. Ce qui nous empêche, tu sais, il y a toutes sortes de motivations à faire un projet avec au niveau TI. Mais justement, notre product owner va travailler avec le client pour identifier stratégiquement qu'est-ce qui a le plus d'impact dans le projet. C'est ça qu'il faut choisir. C'est ça qu'il faut mettre au début du projet. C'est ça qu'il faut livrer dans les mains du client maintenant. Le niveau de confiance. Enfin, moi, en tant que client, enfin, j'ai trouvé, j'ai un partenaire de choix, j'ai un partenaire qui m'écoute, j'ai un partenaire qui me comprend. C'est impossible à faire à travers des documentations, des specs, puis même si j'y fais signer, je veux que ça soit, il faut rendre les choses tangibles. En bout de ligne, j'achète un logiciel. Donc, livre-moi des morceaux. Donc, ceci dit, il y a beaucoup de suggestions à faire, des attentes avec le client. Ma première itération que je te lis, ma première version, tu vas peut-être juste avoir la cuisine. La chambre de bain n'est pas là, la chambre à coucher n'est pas là, le salon n'est pas là, mais la cuisine est là. Donc là, mais ça se travaille, ça se communique avec les clients. Puis habituellement, ça va assez vite parce que c'est ça m'impressionne. Hein. Tu m'as pas fait dessiner les specs du cabanon. Tu me livres la cuisine. Je peux expérimenter, je peux y aller, je peux simuler, je peux m'envisager une maison qui va être tournée autour de ça. Puis je peux te donner la rétroaction en fonction de ce que je vois. Donc, il faut parler le langage. Donc c'est ça. Il faut travailler fort pour parler le langage client. Donc, moi, en tant que client, si tu me donnes le choix, à quelqu'un qui parle mon langage ou qui parle le langage technique, je vais choisir en tant que client une organisation agile.
Donc, l'avantage numéro 4, ça serait, comme tu disais, de livrer tôt et régulièrement. Donc, qu'il y ait quelque chose de tangible, rapide, dans les mains du client pour en faire des itérations puis de bâtir autour de ça. Ouais. Pour être certain qu'on a bien ciblé le besoin et qu'on y répond correctement.
Exactement. Ouais, la dernière.
Avantage numéro 5.
Ouais, ben la dernière, c'est à la base de la définition, c'est exploiter le changement comme un avantage compétitif. Et puis, tu sais, ça change autour de nous. La génération 1 n'existe, ça existe plus. On n'a plus juste une maison, on n'a pas juste un travail, on n'a pas juste, je vais y aller dans le personnel, on n'a pas juste une conjointe. tout change autour de nous rapidement. Il faut s'adapter. C'est sûr que si on passe 3 mois à tout designer les 18 prochaines mois, puis qu'on est rendu dans le milieu, puis qu'il faut changer, c'est comme un aveu d'échec, là. Même que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va freezer ça, puis rendu à date du go live, là, on va faire les demandes de changement subséquentes. On peut plus faire ça. Puis tu sais, pour ceux à l'écoute, là, d'un point de vue développement, là, ceux qui sont du côté dev, ils vont souvent dire le client change tout le temps d'idée. Ça revient, c'est tout le temps le client qui change d'idée. Puis du côté client, ben on dit qu'ils comprennent pas ce qu'on leur dit. Cette fameuse perception, faut arrêter ça, faut trouver une façon de travailler différemment. Donc l'agilité, encore une fois, je reviens au point précédent, la collaboration, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à se parler, on va parler le même langage. Donc si un jour à travers le projet il y a des changements qui arrivent autour de nous dans l'industrie. Nos clients, moi, en tant que client, ma business change. Si je fais un projet de 18 mois, c'est impossible dans les 18 prochains mois, ça ne change pas. Donc, je veux me garder une porte que pendant le milieu du projet, s'il y a quelque chose qui émerge, qui est plus important que ce que j'avais pensé, on fera du troc. Ce point-là, on n'a pas fait les specs d'avance. Ça fait que j'ai pas perdu de temps. Ça fait que c'est possible. Ceci dit, il faut faire attention. Notre but, c'est pas de changer à tout bout de champ. On a un plan respecté. Faut le faire. Puis jusqu'à preuve du contraire, on suit le plan. Mais s'il y a des changements qui arrivent en cours de chemin, on a plus, c'est pas facile, mais on a plus d'options. On a plus d'options pour le changer le plan. Ça marche. Mais parenthèse, faites attention. Souvent, il y a un mythe agile, là. Si on est agile, on change d'idée tout le temps, là. C'est pas ça. On est en mission. On s'en va là. On a identifié nos thèmes. Il faut faire une refonte de ce produit-là. On a un plan. Donc, changez pas de plan de match au sprint numéro 2. C'est pas bon. Là. C'est un échec. Il y a tellement de choses importantes à faire qui ont été identifiées. Il faut respecter ça. On y va. Mais rendu dans le milieu, aux 3/4 du projet, je serais pas surpris qu'on ait une idée. Puis moi, en tant que client, c'est wow. J'ai une idée qui est plus importante. Au lieu de faire le cabanon, je vais agrandir telle pièce. Ça a plus de valeur. Donc, on se donne une chance de, c'est ça, exploiter le changement comme avantage compétitif et non pas que ça devienne une frustration autant du côté dev qu'au côté client.
C'est un bon point. Dans notre filiale Dev to CEO, là, qui est une filiale d'OpenMind Technologies, on développe justement des produits là, d'une idée à un produit à succès et on a segmenté en deux les types de projets qu'il peut y avoir. Le premier, c'est des projets que le client veut utiliser dans sa propre entreprise. Et le deuxième, c'est une idée que quelqu'un veut en faire une business, une startup. C'est un produit qu'il veut lancer à monsieur, madame, tout le monde ou à d'autres entreprises.
Ouais.
On parle d'exploiter le changement comme un avantage compétitif. C'est tellement intéressant ce que tu dis parce que dans le premier cadre où ce que la personne l'utilise dans son entreprise, le logiciel qu'il développe, l'entreprise change tout le temps en continu, les priorités changent, le marché change. Donc, on est capable à ce moment-là de venir adresser toujours ce qui est le plus important dans le cours de route de développement. Mais dans le cadre d'un développement vraiment d'un produit technologique à être commercialisé après, on a une fameuse phase, là, le PMF, le Product Market Fit, qui fait qu'on doit souvent itérer, qu'on doit souvent pivoter, qu'on doit souvent bouger. Donc, dans ces deux cas-là, ça devient super intéressant d'être en mode agile, d'exploiter un peu ce changement-là ou cette opportunité-là pour amener ça à bien ou au bénéfice de tous au bout de la ligne. Ouais. Donc, peu importe que ce soit pour développer quelque chose dans son entreprise ou pour de commercialiser cette plateforme-là par après, dans les deux cas, ça a un grand avantage d'être agile, là, absolument. Là.
Exact, tout à fait. Et c'est un peu... fait deux fois, je pense que j'utilise le mot révolution, tandis qu'on essaie toujours d'évoluer, mais il y a eu des clashs là, importants. Puis ça, c'en est un. Tu sais, il y a encore beaucoup d'entreprises que c'est les projets TI sont vraiment... le périmètre est contrôlé par le TI. Ça, s'il y en a qui nous écoutent, qui veulent faire une transformation, là, c'est une des premières choses qu'il faut se poser comme question. Qui contrôle le périmètre d'un projet? C'est à mon avis, il y a juste une réponse. C'est le côté business. Donc, c'est... La business, elle évolue, puis nos projets, c'est ça. Avant, comme je parlais de ma génération 1, c'était correct, c'était stable. On cherchait la stabilité, les choses autour tournaient moins vite, c'était correct. C'est pas qu'on... Je suis pas en train de dire Waterfall ne marche pas. On a fait des beaux projets, Waterfall, mais le contexte autour de nous a changé. C'est nous, il faut qu'on s'adapte à ça. On peut plus utiliser les mêmes recettes. Donc, mais encore une fois, faites attention pour pas... Ça prend un bon plan, ça prend une vision, il faut savoir où on s'en va. Il faut aller chercher la rétroaction, il faut expérimenter. Puis quand on a des faits qui nous permettent d'indiquer qu'on peut changer, ben il n'y a pas de magie, il va falloir le travailler, il va falloir revoir certaines choses, mais on a encore une fois, on peut se le permettre en travaillant avec une compagnie agile, vous avez cette option-là qui s'offre à vous.
Donc, là, on vient de parler des 5 avantages. Est-ce que tu mentionnerais que ces 5 avantages-là seraient pour les 3 niveaux de gens impactés ou particulièrement pour le côté du client utilisateur?
C'est ça. Tout ce qu'on a parlé, là, c'est les avantages d'un côté client. Mais dans mon discours, il y a aussi des avantages à travers tout ça là, qui se reflètent du côté des développeurs, etc. Là, j'enchaînerai, si tu veux bien, on va regarder du côté organisationnel, le côté agile.
Allons-y.
Fait, en tant qu'organisation, pourquoi mettre l'agilité? Je dirais le premier point, c'est j'en ai quatre. Le premier, c'est scaler up. Si on veut accélérer notre croissance, l'adoption de l'agilité va nous aider beaucoup à ce niveau-là. À la base, là, on avait parlé un peu dans le premier épisode, tu sais, au lieu de gérer des individus avec des projets, si on commence à gérer des équipes avec des clients, c'est bien plus facile. C'est beaucoup plus macro. Donc, ça va nous aider à grandir. Donc, faut sortir du cadre où on est trop micro dans notre gestion, puis créer une structure avec des équipes agiles vont nous aider à ce niveau-là. Ceci dit, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Premièrement, exemple, tous les contrats. Quand on met un contrat en place, c'est une chose de dire le contrat, le périmètre, c'est ça, mais combien de temps? On en a parlé un peu tantôt, il faut que le temps soit là. Donc, il faut être capable d'avoir une vision. J'ai mes clients, j'ai mes équipes, ça commence là, ça finit là. Puis, tu sais, l'importance aussi de mettre un budget fixe. Si je veux faire des projections, je signe un nouveau client, je le mets à la suite de l'autre. C'est important de bien gérer tout ça. Tu sais, c'est pas facile là, parce que moi, une autre tranche de vie, j'ai déjà un client qui m'a appelé dans une autre vie, puis après l'appel, il voyait que je stressais un peu pendant l'appel parce que lui, il avait plein de nouveaux besoins, il a plein de choses, il veut faire plein d'affaires. Mais un peu comme dans un restaurant, si tu vas au restaurant, Jonathan, t'as faim, puis tu manges, c'est bon, puis tu pourras pas appeler tes chums, puis dire, venez-vous-en, là, le restaurant, il est plein.
Éric, super intéressant pour les avantages pour le client et l'utilisateur au bout de la ligne. Je vois le temps qui file, on en a déjà dit beaucoup aujourd'hui. Ce que je proposerais, si tu es d'accord, c'est qu'on va terminer l'épisode pour aujourd'hui et on va réenregistrer un autre épisode qui va mentionner tous les avantages pour les organisations, les développeurs, les individus, les gens dans les équipes. Je pense qu'on en a encore beaucoup à dire. On souhaite garder les podcasts là, 20 minutes, 30 minutes maximum. Donc, si tu veux bien, Éric, on te réinvite pour un autre épisode pour discuter de ce segment-là sur les avantages de l'agilité. Ça te convient, Éric?
Très bien. Merci. À bientôt.
Fantastique. À bientôt, tout le monde. Merci. Voici les 5 avantages de l'agilité pour les utilisateurs finaux et les clients. Donc, le premier, ça nous permet d'avoir des tests en continu. Donc, on teste en cours de route, ça augmente la qualité à ce moment-là de ce qui est livré. Avantage numéro 1, ça bonifie beaucoup tout ce qui est la communication. Donc, on opte pour, je dirais, un pacte à long terme entre toutes les parties et ça augmente énormément les chances de succès. Numéro 3, on est capable de fixer le budget et l'échéancier, ce qui est généralement très important pour le client et les usagers au final. Par contre, il faut faire bouger la portée en cours de route ou de s'entendre pour négocier de ce qui est le plus important à travers tout ça. Avantage numéro 4, ça nous permet de livrer tôt et régulièrement, de recevoir plus régulièrement des petits morceaux de la solution finale pour s'assurer que c'est optimal. Et l'avantage numéro 5, ça nous permet d'exploiter le changement de manière continue sous un angle davantage compétitif comparativement du waterfall où ce qu'on a vraiment beaucoup moins ces 5 avantages-là en cours de développement. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, s'il vous plaît, aidez-nous en le partageant sur les médias sociaux. Aidez-nous également en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et d'invités. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine!